Vous écoutez
RMC.
Il est presque 6h sur RMC, RMC Story. Très bon réveil à tous.
5-7, le Morning RMC.
Et à 6h, c'est l'heure de retrouver Clément Gouitz pour le journal. Bonjour Clément.
Bonjour Alice, bonjour à tous.
Scène de chaos hier à la Beaujoire.
Des images surréalistes lors de la rencontre de Ligue 1 SC dans Toulouse. Envahissement de terrain, jet de fumigène et de projectiles. Et un match stoppé dès la 22e minute. Il n'y a eu ni viol ni drogue. Réaction de Patrick Bruel à la plainte de Flavie Flamand déposée à son encontre pour viol alors qu'elle avait 16 ans. Le projet de loi Riposte débarque au Sénat. Texte qui a pour objectif frapper plus fort contre le narcotrafic et les consommateurs de drogue.
Ambiance électrique hier soir à la Beaujoire.
La rencontre entre le FC Nantes et Toulouse a été stoppée net dès la 22e minute après l'intrusion de supporters nantais sur la pelouse. La rencontre n'a jamais repris. Un scénario totalement hors de contrôle, Pierre-Yves Leroux, pour ce qui devait être une soirée particulière marquée par le dernier match sur le banc de Vahid Halilhodžić.
Et c'est lui, l'entraîneur nantais, 74 ans depuis deux jours, qui est resté face aux intrus sur le terrain. Retenu par le service de sécurité, Vahid Halilhodžić tenait à ce que le match aille à son terme.
Je suis allé vis-à-vis plusieurs messieurs cagulés. Ben, j'ai essayé stopper, mais il avait beaucoup de monde. Et plus surtout le gars de sécurité qui m'a porté. Je pouvais pas, mais je voulais aller vers eux. S'ils sont mécontents, s'ils sont frustrés, je peux comprendre parfaitement bien. Mais pas ça. Le club, il mérite pas ça.
Déjà officiellement relégué en Ligue 2 depuis 8 jours, le FC Nantes risque de débuter la prochaine saison avec une lourde sanction, comme s'en inquiétait après l'interruption du match le milieu de terrain Louis Leroux, formé au club.
Le pire, c'est que ça va nous pénaliser forcément la saison prochaine. On a vu Saint-Etienne il y a quelques années qui a commencé avec moins 6 points, donc voilà, on s'y attend aussi forcément.
La commission de discipline de la Ligue se réunira cette semaine pour statuer et dès l'annonce de l'arrêt définitif de la rencontre, Marina Ferrari, la ministre des Sports, a demandé l'identification des auteurs et des sanctions d'une grande sévérité.
Bon, des sanctions, l'identification, c'est une chose. La colère des supporters, c'est une chose. On peut la relayer, la comprendre, avoir des débats. Mais ces images-là, elles vous ont peut-être choqué. Dernière journée du championnat de Ligue 1. Vous avez vu cet envahissement de terrain, ce match qui ne peut pas se terminer à Nantes. On en reparle dans la causerie avec Virginie. Mais déjà, si vous voulez réagir au 32-16, vous êtes les bienvenus.
Le Havre et Auxerre restent en Ligue 1. Nice passera par la case barrage. Elle affrontera l'AS Saint-Etienne les 26 et 29 mai prochains. En haut du classement, Lille termine la saison 3e et jouera la Ligue des Champions. L'OL, giflé par Lens 4-0, passera par le tour préliminaire de la Ligue des Champions. Enfin, l'OM, vainqueur de Rennes hier soir 3-1, se qualifie pour la Ligue Europa.
Il est 6h02 sur RMC et Patrick Bruel sort du silence.
Le chanteur accusé de viol et de tentative de viol par une trentaine de femmes, dont Flavie Flamand, assure dans un post Instagram n'avoir jamais forcé une femme ni avoir drogué et violé l'animatrice lorsqu'elle avait 16 ans, mais évoque une brève histoire. Réaction d'Evelyne, membre du collectif Salon Féministe.
Ce qu'on aurait attendu de lui, c'est simplement qu'il dise qu'il a pu avoir des comportements qui ont causé de la souffrance et que dans ce contexte-là, il ne peut pas continuer à se produire et que la justice, elle ne va pas pouvoir faire son travail si d'un côté on a des victimes qui parlent et de l'autre côté, un homme qui est célébré sur scène, qui va engendrer des profits, etc. C'est de la communication, hein, c'est rien de plus, ça se sent bien, puisque s'il regrettait réellement, il se mettrait en retrait, il parlerait de toutes les femmes, il ne prendrait pas position que par rapport à Flavie Flamand, il s'excuse à demi-mot, mais il continue comme si de rien n'était. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Et l'ancienne Miss France Valérie Beigue assure également sur ses réseaux sociaux avoir été témoin de comportements inappropriés de la part de Patrick Bruel lors de son élection à Miss France en 2007. Patrick Bruel est visé par au moins 4 plaintes pour violence sexuelle, sans compter celle déposée par Flavie Flamand.
Alors jamais je n'ai forcé une femme, dit-il, mais désormais 30 femmes l'accusent. Ces nouvelles accusations de Flavie Flamand qui annonce une nouvelle plainte ce week-end, ça s'accélère autour de Patrick Bruel et autour des associations qui réclament renonce à la scène. Bien sûr qu'il est présumé innocent, mais il est au théâtre en ce moment et une grande tournée est annoncée à partir du mois de juin et jusqu'à la fin de l'année. Est-ce que Patrick Bruel doit renoncer? Est-ce que vous comprenez les appels au boycott? Vous avez la parole ce matin au 32-16.
6h04, c'est un texte présenté comme un tournant dans la lutte contre le narcotrafic.
Le projet de loi Riposte du ministre de l'Intérieur Laurent Nunez débarque aujourd'hui au Sénat. Un arsenal annoncé comme plus dur contre les free parties, les rodéos urbains, les tirs de mortier ou encore le protoxyde d'azote. Mais aussi, Thomas Becker, un durcissement visant directement les consommateurs de stupéfiants.
Oui, avec un doublement de l'amende de 250 à 500 euros, avec en complément une suspension du permis de conduire, même si le flagrant délit n'est pas constaté au volant. Face à la délinquance du quotidien, le ministre Laurent Nunez prône une tolérance zéro, amende forfaitaire sur le champ en cas de participation à des rave parties ou des rodéos, peine de prison pour les organisateurs. Face à l'explosion de l'usage du protoxyde d'azote en gaz hilarant, le texte prévoit 200 euros d'amende en cas de flagrant délit et 6 mois d'emprisonnement pour la vente illégale. Au Sénat, une majorité devrait se dégager, mais une sénatrice socialiste s'inquiète, je cite, de l'affaiblissement du droit, un argument qui animera les futurs débats à l'Assemblée, où le chemin vers une adoption reste beaucoup plus incertain.
Une prise de parole attendue, celle du Premier ministre Sébastien Lecornu. De nouvelles aides pour le mois de juin pour faire face à la hausse des prix des carburants seront dévoilées jeudi, annonce Matignon.
Il est 6h05 sur RMC et une opération marketing de la marque Swatch qui vire au chaos.
Des scènes de tension devant plusieurs boutiques en France et à l'étranger, allant jusqu'à des fermetures en urgence. À Lyon, les forces de l'ordre sont intervenues et Vincent Chevalier, certains clients ont même retenté leur chance dès le lendemain pour obtenir cette montre spéciale Audemars Piguet Swatch, alors que la boutique doit rouvrir ce matin.
Assis sur sa chaise de camping devant le magasin, Mohamed ne s'en cache pas.
Bon, moi je suis un reseller, donc je viens pour faire de l'argent.
Il a patienté plus de 24 heures ce week-end pour tenter d'avoir une montre, sans succès, mais il ne désespère pas.
Je suis étudiant et franchement, l'argent c'est un peu 1 000 euros en attendant 24 heures dehors, moi je dis pas non. Hein.
Quelques chaises plus loin, Abdel n'est pas là non plus pour l'amour de l'horlogerie. Lui aussi compte bien faire des bénéfices importants sur la revente.
Moi personnellement, la montre, celle que je voulais, elle est à 400 et au minimum 400, je voulais prendre aussi. Donc il y a la revente 800 euros.
Sur certains sites de e-commerce, des modèles sont même mis en vente à 1700, 2000, voire 3500 euros ou plus, ce qui ne surprend pas du tout Victor.
Audemars Piguet, c'est vraiment une marque de montre inatteignable. Faut vraiment avoir bien réussi sa vie pour l'avoir. Vraiment, vraiment. Du coup, cette collaboration, elle fait un peu rêver tout le monde. Moi, c'est cette collaboration-là, elle me fait rêver.
Pour prévenir tout risque de débordement, la police a prévu des rondes devant la boutique ce matin. Elle doit ouvrir à 10h, sans certitude que le nouveau modèle sera bien mis en vente.
Après Center Park, Bellambra, Gîte de France, victime d'une cyberattaque, 390 000 clients concernés. Les trois groupes ont porté plainte. Au total, près de 5 millions de données ont été dérobées.
Il est 6h07 sur RMC, on vous en parlait la semaine dernière. Le cobra venimeux reste toujours introuvable au nord de Toulouse.
Oui, ce serpent dont la morsure peut être mortelle continue de mobiliser d'importants moyens de recherche à Castelginest. Et les établissements scolaires qui ont dû fermer pendant 2 jours la semaine dernière vont rouvrir aujourd'hui. Décision de la préfecture et de la mairie. Une décision, Philippine Boulet, qui inquiète les parents d'élèves.
Aujourd'hui, la fille de Farid retourne au collège.
Alors, ça tenait qu'à moi, je préférerais qu'on ne réouvre pas.
Pour ce père de famille, la reprise des cours est risquée tant que le cobra n'a pas été retrouvé.
Le collège est proche du bois Ordelaire, c'est là où il a été aperçu, donc on préfère l'avoir à la maison.
Même angoisse pour Gaëlle, maman de 2 enfants, l'un en maternelle, l'autre en primaire.
On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qui peut se passer, il y a la psychose qui s'installe.
Elle ne comprend pas pourquoi les écoles rouvrent alors que le serpent est toujours en liberté.
On les a fermés pour ça, puis on les rouvre... D'un coup, c'est pas trop logique.
Pourtant, la préfecture de Haute-Garonne l'assure. Même si le reptile n'a pas été capturé, les recherches permettent d'affirmer qu'il n'est plus aux abords des établissements scolaires. Et c'est pour cette raison que le maire de Castelginest, Grégoire Carnero, rouvre les écoles de la ville.
Le risque zéro n'existe pas, mais on ne peut pas non plus bloquer la vie pendant des semaines.
Pour éviter tout incident, l'élu mise sur la sensibilisation des élèves comme des parents.
De façon à ce que les bons réflexes soient pris par les enfants, dans l'hypothèse où l'aide apercevrait l'animal.
Les sapeurs-pompiers, la gendarmerie de Haute-Garonne reste mobilisée pour localiser le serpent.
Pas d'exploit pour le 15 de France féminin au tournoi des 6 nations. Défaite 43-28 contre l'Angleterre. Les Anglaises signent un 8e grand chelem d'affilée.
Merci beaucoup Clément Gouide. C'était le journal il y a quelques instants avant votre journal. On a parlé de l'Eurovision, de la 11e place de la Française Monroe et de la victoire de la Bulgare que vous entendez. Je pense que tout l'été, vous allez l'entendre ce truc-là. Bernard nous écrit, super que la France ne soit pas vainqueur, une grosse économie, oui, le gagnant doit organiser. Christian nous dit, concours complètement truqué, il faut que ça s'arrête au plus vite, le niveau est d'une nullité quand on pense qu'on a connu Abba et Céline Dion à l'Eurovision. J'ai Roger qui nous écrit des territoires de Belfort, qui nous écrit ce matin, pour que la France gagne l'Eurovision, il faudrait monter une sorte d'école d'Eurovision avec Marie-Myriam à sa tête pour qu'elle apporte son expérience, voilà ce que dit Roger. Et puis Julien qui nous dit, il faudrait peut-être chanter la France, la fête, la joie de vivre. Arrêtez avec ces trucs de dépressifs qui donnent pas envie aux autres pays de voter pour nous. Ali qui dit aussi, voilà, tous les pays envoient leurs stars locales et nous on envoie des gens que personne ne connaît. Voilà ce que vous avez dit ce matin en réagissant à l'Eurovision. Clairement, ça vous a inspiré dans vos messages sur le WhatsApp RMC 0612 424 424.
Il est 6h09 sur RMC. C'est une des questions qu'on vous pose ce matin. Est-ce que vous pourriez encore aller voir Patrick Bruel en concert ou au théâtre avec la trentaine d'accusations qui pèsent contre lui, des accusations de violence sexiste et sexuelle. La plus récente en date étant celle de l'animatrice Flavie Flamand. Ça a fait réagir Olivier qui a composé le 32-16 ce matin. Bonjour Olivier.
Oui, bonjour tout le monde. Bonjour.
Olivier, vous dites Patrick Bruel est encore présumé innocent.
Oui, alors je vous dis, il est encore présumé innocent à l'heure d'aujourd'hui, mais je pense que l'étau se resserre de plus en plus avec toutes ces plaintes et surtout le coup de grâce de Flavie Flamand. Donc je pense qu'il est déjà blacklisté, sa carrière finie, et je pense que cela va être très dur pour lui pour s'en sortir.
Bah, il n'est pas encore blacklisté, puisque pour le moment, ça a tourné...
58 dates pour sa tournée de juin à décembre.
Il y a certains festivals aussi qui maintiennent sa présence. Pour l'instant, il n'est pas blacklisté.
Pour l'instant, à l'heure d'aujourd'hui, je crois, à l'heure d'aujourd'hui. Mmh. Mais je pense que la Lali est sonnée et ça ne va pas durer longtemps. Enfin, je pense, c'est mon avis personnel.
La Lali, qui n'est pas le mot caché, mais qui est le mot employé par Christian aussi sur le WhatsApp RMC depuis ses accusations et plaintes contre Bruel, c'est la Lali. Avant même sa mise en examen ou le jugement, cet homme, sous les applaudissements de mouvements féministes qui étaient écartés, c'est une présomption de culpabilité. Après, c'est toujours compliqué, que ces affaires de présomption d'innocence. Bien sûr qu'il est présumé innocent, il n'est pas question de le condamner avant la justice. Après, quand vous avez une trentaine de témoignages, que vous avez des personnalités de premier plan qui commencent à s'exprimer...
Non, mais il pourrait faire le choix, lui, de se mettre en retrait.
Et c'est ça, est-ce qu'on peut imaginer d'avoir ces affiches dans la rue, ces spectacles, avec les manifestations que ça va impliquer devant chaque spectacle. Merci Olivier, en tout cas. Merci de votre appel au 36 ce matin.
Au revoir.
Vous continuez à réagir sur ce sujet, vous n'hésitez pas, vous serez en direct avec nous au 32-16, que ce soit dans le Morning ou chez Apolline de Malherbe. Tout à l'heure.
Il est 6h11 et c'est le moment de vous inscrire pour tenter de remporter l'un des packs cadeaux de la Coupe du Monde 2026. Et les cadeaux sont géniaux. Vidéoprojecteur, écran, barre de son, maillot des Bleus, babyfoot. Tout ce qu'il faut pour vivre le mondial pleinement. Vous venez sélectionner un joueur dans la liste des 26. C'est ça le but du jeu, Mathieu.
Il y aura toute une installation, une mise en place qui nous permettra, façon juste prix, de creuser dans le décor pour chercher votre cadeau. Ça va être formidable. Franchement, vous envoyez liste. C'est maintenant ?
Oui,
c'est maintenant le top inscription.
C'est maintenant.
C'est maintenant. Vous avez 5 minutes pour vous inscrire. Il est 6h12. Vous avez jusqu'à 6h17. C'est maintenant que vous envoyez liste par SMS au 732-16. Je vous vois prendre des notes, c'est pas pour vous, Clément. Non, c'est pour nos auditeurs. Liste par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Allez, dans un instant, c'est le choix de la rédaction. Bonjour, Anna Jojard.
Bonjour.
Anna, en Corse, des malades sont obligés de prendre l'avion pour aller se faire soigner sur le continent, faute de CHU sur l'île. Votre enquête dans un instant sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
5h-7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
6h16 sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes et à tous.
RMC, le choix de la rédaction.
Être obligé de prendre l'avion ou le bateau pour vous faire soigner parce que vous vivez dans un désert médical, c'est ce que vivent des dizaines de milliers de Corses chaque année. Car s'il y a des hôpitaux et des cliniques sur l'île, la Corse n'a pas de centre hospitalier universitaire, de CHU, et elle manque donc de spécialistes et de matériel pour soigner de nombreuses pathologies.
Bonjour Anna Jojard.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante dans le Sud-Est et vous vous êtes intéressée à ces patients qui sont bien souvent obligés, ces patients corses, de se rendre à Nice, Paris ou encore à Marseille pour se faire soigner.
Et oui, j'ai rencontré ces patients voyageurs dans une salle de l'aéroport de Marseille, l'Aria Serena, un espace tranquille de 50 mètres carrés, calfeutré loin du brouhaha du terminal 1, mis en place par la compagnie Air Corsica depuis 2017, avec l'aide d'associations de patients pour permettre à ces malades de se reposer entre leurs rendez-vous médicaux et leur avion. Et c'est le chef d'escale d'Air Corsica, Jean-Dominique Grousso-Bellini, qui nous fait la visite.
On a un espace de détente, un espace de repos, avec un canapé, des fauteuils confortables, une table pour se restaurer, une télévision. On a des passagers avec qui on tisse des liens parce qu'on sait qu'ils sont là pour se faire soigner.
Sur le canapé en cuir devant la télévision, Marie-France se réveille d'une sieste.
Heureusement qu'il y a cette salle, c'est calme. On peut se reposer vraiment.
Elle sort de sa chimio pour soigner son cancer du pancréas.
Ça fait 7 mois.
7 mois.
7 mois tous les 15 jours, je viens. Et c'est fatigant parce qu'on se lève de bonne heure. On part le matin à 7h15 et on rentre par le dernier avion à 22h. Ça fait une longue journée, plus la chimio. On a envie de rentrer le plus vite possible et se reposer.
Dans un coin de la salle, Océane, 19 ans, attend son vol, accompagnée de sa mère Céline. Elle est suivie depuis ses 16 ans à Marseille pour un problème de circulation sanguine.
Je fais des études à la fac de Corté. Donc forcément, oui, on doit caler les rendez-vous entre... prévoir avec les examens, tout ça. C'est une petite réflexion à faire à chaque fois.
C'est toute une organisation tout le temps. Je vous dis, parce que moi, j'ai ma fille, mais j'ai deux autres petits garçons à la maison. Et, enfin, c'est une organisation de fou, quoi. C'est vrai qu'en Corse, c'est compliqué. Ouais. Vu le nombre de populations qui y résident à l'année, c'est quand même vraiment très, très dommage qu'il n'y ait pas ce qu'il faut pour pouvoir se soigner, quoi.
Et Céline, cette maman que vous venez d'entendre, elle parle aussi des coûts supplémentaires que cela représente pour sa famille de venir sur le continent pour accompagner leurs proches malades.
Oui, parce que l'assurance maladie, Anna, elle rembourse le voyage du patient, mais pas tout le temps celui de l'accompagnateur.
Oui, c'est en fonction de l'état de santé du patient que l'assurance maladie détermine s'il peut être accompagné ou non, et donc que le trajet de l'accompagnateur soit pris en charge. Les mineurs de moins de 16 ans, eux, ont le droit à la prise en charge de 2 accompagnateurs depuis 5 ans, une dérogation accordée à la Corse grâce à la mobilisation d'associations comme INSEM, qui veut dire Ensemble en Corse, fondée par Laetitia Cookie, elle-même autrefois concernée par ses allers-retours médicaux. Cette association, elle aide les patients administrativement et aussi financièrement, car par exemple, l'hébergement sur le continent est rarement remboursée. C'est pourquoi l'association de Laetitia achète des appartements destinés aux patients corses.
On en a 6 à Marseille, 3 à Nice et 1 à Paris. Et malheureusement, ils sont constamment saturés. Ça ne suffit pas. La demande est trop importante. Il faut continuer à lever des fonds, continuer à acheter des appartements, continuer à financer les billets d'avion qui ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. C'est pas normal que la société civile, que le secteur associatif, que les citoyens doivent se mobiliser eux-mêmes pour faire face à une problématique d'accès aux soins qui est connue de tous depuis des décennies.
Et derrière cette situation, il y a un risque, celui du renoncement aux soins pour certains malades. C'est donc pour tenter de rétablir une égalité d'accès aux soins en Corse qu'en février, le Sénat a validé la proposition de loi pour la création d'un CHU sur l'île d'ici 2031.
Alors l'objectif 2031, merci Anna Jojard, notre correspondante RMC à Marseille, merci pour cette enquête. Vous êtes vous-même corse précisément, vous connaissez cette problématique-là, ces transferts pour passer de l'île au continent, justement quand il s'agit de se faire soigner en attendant le CHU en 2031. Vous témoignez ce matin au 32-16, n'hésitez pas. Eh bien, dites donc, ça reste impressionnant.
J'ai une heureuse nouvelle à vous annoncer ce matin, Mathieu.
Mais c'est déjà fait, non ?
Bah, moi, c'est déjà fait, mais Louane, c'était ce week-end, elle s'est mariée. La chanteuse qui a épousé son compagnon Florian Rossi, lui aussi chanteur et musicien, connu sous le nom de Pégase, avec lequel elle avait partagé le titre...
Le chevalier du Zodiac.
Ouais, Soleil, c'est en 2024.
Et chaque seconde me brûle.
Alors les deux tourtereaux ensemble depuis 8 ans se sont unis à Pertuis dans le Vaucluse près d'Aix-en-Provence. Les mariés voulaient une ville authentique, typiquement provençale, avec une belle église. C'est ce qu'a confié monsieur le maire à nos confrères de la Provence.
Donne-moi ton cœur.
Et pour l'occasion, près de 200 personnes se sont réunies, notamment Stromae, Soprano, Mika, M. Pokora, que du beau monde et autant d'artistes qui ne devaient pas être devant leur télé samedi soir pour soutenir la France à l'Eurovision.
Là, je ne parlais pas de la playlist, tu parlais des invités.
Je parlais bien des invités.
C'est la classe.
Ouais, c'est chic. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a exactement un an, Louane, elle participait à l'Eurovision avec sa chanson Maman, qu'on entend là, et qui lui avait permis de finir à la 7e place. C'était mieux que Monroe à la 11e.
Et elle a choisi ce week-end-là pour se marier.
Ouais.
Bon, après, c'est toujours compliqué, les réservations un an en avance, etc. Mais
après,
Louane...
je pense que quand on a fait l'Eurovision, on n'a plus envie de regarder derrière. Ouais. Il me semble un petit trauma. Et donc, elle a choisi un événement pour oublier. Quoi.
Il est 6h21, félicitations aux jeunes mariés. On reparlera de l'Eurovision un peu plus tard. Il est 6h22, très bon réveil à toutes et à tous. Les trois grands titres de l'actualité avec Élise.
Et Patrick Bruel qui sort du silence, lui qui est mis en cause par une trentaine de femmes... pour violences sexuelles, dont l'animatrice Flavie Flamand. Il assure dans un message sur ses réseaux sociaux qu'il n'a jamais forcé aucune femme. Gérald Darmanin en Algérie, le ministre de la Justice, est le troisième ministre français à se rendre dans ce pays depuis le début de l'année. Il sera question de la coopération judiciaire et du cas du journaliste Christophe Glaise, incarcéré depuis près d'un an. Et puis le dénouement de la saison en Ligue 1. Lille, directement qualifié pour la Ligue des Champions. L'OM qui sauve les meubles et qui jouera en Ligue Europa. Auxerre se sauve et Nice jouera les barrages.
Il est 6h22 sur RMC. Et le docteur Guedj nous a rejoint. Bonjour Aurèle.
Bonjour.
C'est l'heure de la consultation gratuite. On va briser des tabous ce matin.
Oui, aujourd'hui on va s'intéresser à quelque chose que vous avez tous et toutes, les hémorroïdes. On va essayer de briser ce tabou. On va essayer de comprendre pourquoi et comment éviter pour en souffrir.
A tout de suite sur RMC et RMC Story, 6h23.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h26 sur RMC, RMC Story, on va voir le docteur.
RMC, consultation gratuite.
Un tiers des adultes a déjà souffert d'hémorroïdes, une pathologie fréquente, souvent taboue et souvent aussi extrêmement douloureuse. On va essayer de comprendre tout ça avec vous, docteur Guedj. D'abord, les hémorroïdes, ça vient d'où ?
Alors, les hémorroïdes, c'est un abus de langage. Les hémorroïdes, en soi, on fait référence généralement à la maladie hémorroïdaire, mais on a tous des hémorroïdes. Oui, vous, Élise, vous avez des hémorroïdes. Oui, vous, Mathieu, vous avez des hémorroïdes. Vous en avez tous autour de cette table. Les hémorroïdes, c'est le nom du paquet vasculaire qu'il y a au niveau du rectum. C'est là où vous allez avoir les veines, les artères. Donc, en fait, vous passez l'anus et au niveau de la paroi, vous allez avoir justement un paquet avec des veines et des artères.
Plein de vaisseaux sanguins.
Plein de vaisseaux sanguins. Sauf que le problème, c'est que lorsque, vous allez avec certains efforts de poussée, vous allez avoir maltraité un petit peu ce paquet. Ce paquet peut sortir et donc ça va justement faire de la maladie hémorroïdaire. On appelle ça un prolapsus, c'est lorsque tout simplement le paquet hémorroïdaire sort. Et puis il peut être responsable soit de douleurs, puisque ça peut s'irriter, soit de saignements. Les patients peuvent décrire des saignements rouges lorsqu'ils vont à la vaisselle. Ou alors, dans certains cas, ça peut même thromboser, c'est-à-dire que ce paquet de vaisseaux qui va rester, qui va stagner, le sang, quand il stagne, il peut coaguler. Et donc vous allez avoir formation de caillots et donc il y a un risque de thrombose. Donc vous avez tous des hémorroïdes, c'est juste que la particularité chez certaines personnes, ces hémorroïdes peuvent un petit peu se déformer, peuvent être responsables de douleurs et dans certains cas peuvent thromboser.
Et ça, pardonnez, vous disiez ça sort, ça rentre dedans après quand on guérit ?
Ça dépend du stade.
Que c'était un peu tabou, mais là je suis convaincu qu'il y a plein de nos auditeurs qui ont monté le son et qui vont partager le podcast à des proches de leur famille.
Il faut bien comprendre que l'histoire des hémorroïdes, généralement, alors en fonction de la localisation, mais quand vous avez des hémorroïdes internes, c'est vraiment localisé sur le rectum, ce qui va se passer, c'est au début, ça vous fait mal, ensuite, ça sort tout seul quand vous faites un effort de pousser à la selle, ça re-rentre, parfois ça sort et vous avez besoin de vous-même réduire l'hémorroïde, ou alors parfois ça n'est même pas réductible et c'est différents stades.
Et alors on entend souvent, docteur, que des aliments, notamment épicés, provoquent ces hémorroïdes, c'est vrai ou pas ?
Alors, prenons par exemple la Corée où ils mangent extrêmement épicé, ils n'ont pas plus d'hémorroïdes qu'ici. Donc c'est pas une légende, c'est-à-dire que le fait que vous ayez une sensation de brûlure, ça peut augmenter les sensations lorsque vous avez une maladie hémorroïdaire sous-jacente, mais c'est pas le fait de manger épicé. Par contre, tout ce qui va être responsable d'efforts de pousser, ça peut augmenter le risque de maladie hémorroïdaire. Donc quand on est constipé de façon chronique,
on pousse pas.
Tout simplement, il faut manger des fibres. C'est même une des recommandations de la Société de gastro-entérologie, c'est de manger des fibres. La deuxième chose, ça va être les grossesses. La troisième chose, l'obésité. Les grossesses, savoir que vous avez énormément de femmes enceintes qui post-grossesse décrivent une maladie hémorroïdaire.
Bien sûr.
Parce que justement, il y a de la stase, il y a la constipation, peu de place. Et puis vous allez aussi avoir le fait d'avoir du poids et surtout faites du sport, c'est important. Donc comme d'habitude, mangez, bougez.
On en termine, c'est marrant, il y a 1000 pathologies, mais à la fin, il faut manger et bouger.
Toujours la même chose.
Merci, docteur Aurèle Guedj. La consultation gratuite à partager en podcast sur l'application RMC. C'est l'heure de jouer.
Avec Pascal, qui nous appelle depuis Besançon, dans le Doubs. Bonjour, Pascal.
Bonjour.
Ça va bien, Pascal, ce matin ?
Oui, ça va. Je suis un peu stressée parce que c'est la première fois que je parle à la télé.
Oh, mais soyez pas stressée.
La bienvenue, Pascal.
C'est comme chez vous, Pascal. Est-ce que vous avez identifié le mot caché ?
Le mot caché, euphonie.
Exactement.
Très joli.
Bravo,
très joli.
Pascal.
Très joli mot que j'ai appris ce matin grâce à Élise. C'est l'inverse de la cacophonie, c'est l'harmonie, des sons agréables. C'est ce qu'on essaie de vous apporter aussi le matin à la radio. En tout cas, Pascal, on vous apporte déjà la station météo, la Cross Technologie, la station météo connectée qu'on vous envoie chez vous, dans le Doubs, vers Besançon. Bravo, Pascal.
Merci beaucoup à vous.
5-7, le Morning RMC.
Très bon réveil à toutes et à tous, c'est l'heure du journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour à tous les deux, bonjour à tous.
Et à la une, les relations qui se réchauffent entre la France et l'Algérie.
Le ministre Gérald Darmanin en Algérie, aujourd'hui pour parler de coopération judiciaire notamment. Vous allez entendre la CFDT qui demande une réouverture des négociations sur les salaires dans le contexte économique actuel. Et puis l'épilogue de la saison en Ligue 1 de football, Lille termine sur le podium et le chaos à Nice et Nantes avec des envahissements de terrain.
Et c'est donc pour la troisième fois depuis le début de l'année, un ministre français qui se rend en Algérie.
Oui, cette fois c'est le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sur place aujourd'hui pour parler coopération judiciaire et également du cas du journaliste français Christophe Glaize qui est condamné à une peine de 7 ans de prison en Algérie. Il est même question d'une possible rencontre avec le président algérien, Cyprien Pezeril.
Oui, Gérald Darmanin pourrait être reçu par le président algérien, un rendez-vous stratégique s'il en est, puisqu'Abdelmajid Tebboune a le pouvoir de gracier Christophe Glaize, comme il l'a déjà fait pour Boualem Sansal. Une grâce, c'est désormais le seul moyen pour le journaliste français d'être libéré avant la fin de sa peine. Il a renoncé en effet à ce pourvoir en cassation. L'espoir de son retour est réel pour le garde des Sceaux, mais le meilleur moyen de le libérer est de ne pas trop parler, prévient le ministère de la Justice. Au-delà du sort de Christophe Glaize, aujourd'hui il sera aussi question de coopération judiciaire, notamment pour lutter contre la criminalité organisée, mieux ciblée par exemple des chefs de la DZ Mafia. Bref, relancer la machine entre Paris et Alger, après des mois de brouille, entretenue en particulier par Bruno Retailleau lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Fin avril, Emmanuel Macron fustigeait, je cite, les maboules qui veulent se fâcher avec l'Algérie.
Alors pendant ce temps, chez nous en France, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, va prôner la tolérance zéro face à la délinquance avec son projet de loi Riposte qui sera examiné à partir d'aujourd'hui au Sénat et qui prévoit de durcir les sanctions face aux rodéos urbains et au trafic de drogue notamment. On est ce matin, tiens, une semaine après la fusillade qui a fait, souvenez-vous, deux morts en pleine journée à Nice, dans le quartier des Moulins, où un commissariat de police a été installé, mais alors de façon express, dans le quartier, comme l'avait annoncé dans la foulée le maire Éric Ciotti. Mais pour ce faire, une association de médiation sociale a été délogée pour faire donc de la place aux policiers, ce que déplore David Nakache, membre d'un collectif niçois et ex-candidat à la mairie.
On ne met pas des policiers pour déloger une association. On doit avoir les deux, bien évidemment des policiers municipaux, mais un tissu associatif renforcé. Les médiateurs ont besoin de plusieurs années pour créer du lien et avoir une action réellement efficace. Et même si on déplace un lieu de médiation sociale de quelques rues, il faut quand même rebâtir quelque chose derrière. Il y a besoin de stabilité, il y a besoin de repères dans un quartier. Vraiment, la pire des choses face à l'extension du narcotrafic et face à des drames humains terribles, c'est la précipitation. Il faut sécuriser le dispositif et si on veut agir efficacement, il faut le faire de façon beaucoup plus raisonnée.
Patrick Bruel prend la parole et il se défend, accusé de violence sexuelle par une trentaine de femmes, dont l'animatrice Flavie Flamand. Le chanteur assure dans un message publié sur ses réseaux sociaux qu'il n'a, je le cite, jamais forcé une femme et qu'il ne s'est jamais servi de sa notoriété pour abuser de quiconque.
Il est 6h33 sur RMC et la CFDT veut rouvrir les négociations sur les salaires.
Idée évoquée par la patronne du syndicat, Marie-Lise Léon, face à la situation économique actuelle et notamment dans les branches où les grilles salariales démarrent en dessous du SMIC. Tiens, écoutez ce qu'on en pense avec Marion Degas et Thomas Douéré.
Idir travaille comme agent de sécurité. Il touche près de 1400 euros par mois. Et quand on lui demande de quand date sa dernière augmentation de salaire.
C'était en 2017-2018, dans ces eaux-là. On nous a même réunis pour nous dire qu'on a été augmenté de 13 euros.
Des augmentations de salaire rares et faibles, c'est ce que connaît aussi Hakim. Avec 1800 euros par mois, ce chauffeur poids lourd a de plus en plus de mal à ne pas tomber dans le rouge.
Souvent, à la fin du mois, je vais voir ma mère pour emprunter quelques euros. C'est très compliqué.
Certaines branches ont encore des grilles salariales qui démarrent en dessous du SMIC, dénonce la numéro 1 de la CFDT, Marie-Lise Léon. C'est le cas par exemple de l'habillement, mais le contexte international rend toute augmentation de salaire impossible selon Yann Rivoilan, président de la Fédération française de prêt-à-porter féminin.
La consommation est en train de continuer à baisser dans notre secteur. Ça fait maintenant plusieurs mois que la majorité des marques ne peuvent pas augmenter leurs collaborateurs parce que tout simplement, elles n'avaient pas les marges de manœuvre.
Au total, la CFDT dénombre 47 branches d'activité où le salaire minimum démarre sous le SMIC.
Et on va poser la question au patronat Michel Picon en direct avec nous juste après ce journal. Il représente les entreprises de proximité. Est-ce que les patrons peuvent faire un geste concrètement? La CFDT met le débat des salaires sur la table. Est-ce que les patrons peuvent y répondre? Vous réagissez au 32-16 ce matin.
Il est 6h35 sur RMC et la saison aura été animée jusqu'à la fin en Ligue 1.
Elle s'est même terminée dans le chaos avec un envahissement de terrain à Nantes. D'ailleurs, le match n'a pas repris. Et à Nice, qui n'a pas fait mieux qu'un nul 0-0 contre Metz et qui devra jouer donc un barrage contre Saint-Etienne pour sauver sa peau en Ligue 1. C'est Lille qui termine 3e et se qualifie directement pour la Ligue des Champions malgré sa défaite de 0 contre Auxerre. Tiens, il en dit quoi l'attaquant l'attaquant lillois Olivier Giroud.
On revient de loin, on revient de loin. On peut être fier de ce qu'on a réalisé. Bon, bien sûr, ce soir, on aurait voulu terminer sur meilleure note, une victoire. Voilà, on peut être très, très fier et très content pour le club, pour toutes les personnes qui travaillent dans ce superbe club et tous nos supporters. D'avoir cette Ligue des Champions, qualification directe, c'était un peu inespéré. C'est génial.
Et Marseille se console avec une cinquième place et la Ligue Europa, compétition qu'il ne faut pas galvauder. C'est ce que dit l'entraîneur marseillais Habib Bey. Le rugby, ce record d'affluence pour un match de, enfin, match féminin. Il y avait 35 000 personnes hier à Bordeaux pour le dernier match du tournoi Destination qui faisait office de finale et que les Françaises ont perdu 43-28 contre l'Angleterre. Et puis le résultat de la soirée, c'est la victoire de La Rochelle qui a écrasé Toulouse 38-10 et qui se relance plus que jamais dans la course aux phases finales à deux journées de la fin. En grande forme, les Rochelais en ce moment, comme le centre Jules Favre.
D'avoir une performance comme celle-là ce soir, ça donne encore plus de confiance. Ces dernières semaines, on a eu de la confiance et ce soir, on a encore validé ça. Donc, on avait à cœur de faire un très gros match devant nos supporters. On a déçu plusieurs fois cette année, malheureusement, à De Flandre. Et on a tout donné, tout ce qu'on avait. Et on savait que derrière, il y avait 8 mecs qui étaient sur le banc, qui étaient prêts à rentrer, à tout donner. Donc, on est vidé de l'énergie. Mais en tout cas, je pense qu'on a donné beaucoup sur le terrain.
Bon, pas de top 14 hein, le week-end prochain. Il y aura la finale de la Coupe d'Europe pour Bordeaux. Ça se jouera à Bilbao.
Et le quintet, Quentin, c'est à l'hippodrome de Marseille-Borély cet après-midi.
À 13h50. Là, c'est le 14 des pronostics de la Dream Team des courses RMC pour aujourd'hui. Là, sans favori, Courpluvix. Et le 14 en outsider, l'Infasomère.
Courpluvix, c'est mignon.
Oui. Oui.
C'est des fans d'Astérix là, qui nomment les canassons.
Ah bah, j'espère pour lui, oui.
Oui, sinon ce serait une drôle de coïncidence. Non, j'ai Merema, pardon, je ne sais pas si c'est un pseudonyme qui réagissait à vos infos sur ce qui s'est passé à Nantes hier, les images à Nantes. J'espère que la Ligue de football va vraiment faire son travail, que les auteurs vont être condamnés et interdits de stade. On en parle dans la causerie avec Virginie Fulpin dans quelques petits instants. Il y aura Arthur Asquin aussi pour C'est déjà demain.
Absolument, vous connaissez la dernière mode ?
Non.
C'est les écouteurs avec des fils.
Mais c'est la tech normalement.
Oui, c'est la tech.
Oui, absolument. C'est la tech. Hein.
Arthur, mais c'est la technologie.
Avec le Walkman.
Anthony Morel et puis Anthony qui sera là. Anthony, un autre dans la Nièvre pour réagir sur les salaires avec notre invité dans un instant, Michel Picon. Mais Aurel Gage a peur parce qu'on lui a dit tu peux revenir en studio, on a une question de santé. Regardez comme il est stressé. Non, mais on a raté un truc. C'est Christian qui nous alerte. Bon anniversaire, Aurel.
Merci beaucoup.
Il a l'air super content.
Il a non, c'est des choses que je dis pas, ça.
Combien d'hémorroïdes?
Il a 12 ans et demi. Ça fait longtemps que j'ai 20 ans maintenant.
Voilà. On va dire ça comme ça. Bon anniversaire à vous, Aurel. Il est 6h38 sur RMC et RMC Story.
Et dans un instant, le SMIC va augmenter le 1er juin. Et pour les autres, la CFDT réclame de nouvelles négociations salariales. Alors qu'en pensent les patrons? Peuvent-ils augmenter tous les salariés? Michel Picon, le président des entreprises de proximité, l'UDP, nous répond dans un instant.
Il est 6h38.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Jusqu'à 7h.
5-7, le Morning RMC.
Élise Dangean, Mathieu Béliard.
Il est 6h41 sur RMC et RMC Story. À partir du 1er juin prochain, le SMIC augmente de 34 euros net. Pour chaque salarié au SMIC, la secrétaire générale de la CFDT, Marie-Lise Léon, réclame une réouverture des négociations salariales dans les entreprises et dans la fonction publique. Et on est avec Michel Picon, président de l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, les artisans, les commerçants, les professions libérales. Bonjour Michel Picon.
Bonjour.
Alors Michel Picon, Marie-Lise Léon, elle dit que certaines entreprises vont très bien et qu'elles sont donc en mesure de rehausser les salaires. Est-ce que ça correspond à votre réalité?
Bah écoutez, je sais pas dans quel monde elle vit. Madame Léon, parce que les entreprises, elles vont pas bien. Et chacun le sait, malheureusement, et le voit, une augmentation du chômage de 8,4%. 70 000 entreprises qui sont parties en liquidation, autant qui ont tiré le rideau. Il n'y a qu'à se balader dans les villes et on voit bien ce qui est en train de se passer. L'augmentation des salaires, c'est pas le fruit d'une injonction. C'est juste pas possible. Et je pense que c'est même dommageable parce que les entreprises, elles se battent pour leur survie en ce moment. Leur survie est celle de leurs salariés. Et c'est pas le moment d'engager un climat de tension entre les entreprises et les salariés.
On peut entendre que toutes les entreprises ne sont pas impactées de la même manière. Évidemment, on en parle ici en premier, d'ailleurs, des entreprises qui sont exposées directement à la crise des carburants. Mais tout le monde ne souffre pas de la même manière, Michel Picon.
Oui, mais j'entends bien, mais le dialogue social dans les entreprises fait le travail. aujourd'hui, sans qu'il y ait une injonction générale comme ça, appel à l'augmentation des salaires généralisée dans les entreprises qui vont bien, faites confiance aux représentants des salariés pour qu'avec les représentants de la direction, une politique de boost de salaire, d'intéressement, de primes, tout ça est mis en place. Mais ça, évidemment. Et ensuite, après, il y a toutes les autres entreprises où il faut être extrêmement prudent. Moi, j'appelle bien évidemment dans les secteurs où ça va bien, mais vous savez, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui des secteurs où ça va bien. Et tout le monde prend le... Oui.
Il y a toutes ces branches, Marie-Lise Léon le rappelle, hein, qui ont des grilles salariales qui démarrent sous le SMIC. On en compte 47 au total, alors que c'est illégal.
Oui, 47 sur 240. Il faut quand même relativiser un petit peu les choses. C'est illégal. Ce qui est illégal, c'est de payer quelqu'un en dessous du SMIC. Oui, il y a dans les grilles de salaire des niveaux, souvent à l'embauche, qui sont au-dessous du SMIC. Mais à la fin du mois, le salarié touche le SMIC. C'est illégal dans notre pays de payer quelqu'un au-dessous du SMIC, et c'est heureux. Donc cette histoire de branche, oui, c'est ça serait mieux que ça ne soit pas le cas, mais ce n'est pas au préjudice des salariés. Pourquoi ça n'est pas relevé? Pourquoi le minima dans une grille n'est pas au niveau du SMIC? Parce que, vous le savez bien, dans les discussions, c'est l'effet accordéon domino qui fait que pour remonter le premier niveau au niveau du SMIC, ben vous devez remonter tous les autres. Et c'est une augmentation très importante de la masse salariale des entreprises qu'elles ne peuvent pas supporter. Enfin, je pense qu'il faut que tous, on garde les pieds sur terre. Nous sommes en ce moment dans une période extrêmement difficile.
Alors, on va accueillir Anthony, qui est à Nevers, dans la Nièvre, ce matin. Bonjour Anthony.
Bonjour Élise, bonjour Mathieu.
Anthony, est-ce que vous allez... vous faites quoi dans la vie, Anthony, d'ailleurs?
Chargé d'affaires dans l'industrie, donc je ne vais pas pouvoir parler de toutes les branches qui existent, mais au moins parler de celles de l'industrie.
Oui, et vous allez demander une augmentation ce matin, Anthony?
Moi, je ne demande rien. Mais par contre, je voudrais rétablir une petite vérité, c'est que l'année dernière, par exemple, si les grilles de la métallurgie n'ont pas été augmentées, c'est que les syndicats n'ont pas voulu. Donc parfois, la non-augmentation des salaires vient aussi des syndicats.
Mais pourquoi ils n'ont pas voulu?
Parce que quand le MEDEF et les syndicats n'arrivent pas à se mettre d'accord, il y a un accord de non-accord et c'est zéro pour tout le monde.
D'accord. C'est pas qu'ils ont refusé l'augmentation, c'est qu'il n'y a pas eu de deal entre les syndicats et le patronat. Anthony, je profite simplement de la présence de Michel Picon. Alors vous êtes moins directement concerné par l'industrie, mais Anthony, vous, votre augmentation, la dernière augmentation, c'était quand chez vous?
L'année dernière, j'ai eu 23 centimes, soit 30 euros brut.
Waouh, qu'est-ce que vous allez faire de tout cet argent?
Je me pose bien la question.
Et pour autant, vous n'allez pas redemander une augmentation cette année, Anthony?
Non, je ne demande rien.
Vous n'auriez pas envie, là?
Non, je vais être revalorisé que par rapport à mon travail.
Ça pourrait aller avec, Anthony, c'est pas incompatible.
Ah oui, non, mais je suis d'accord avec Monsieur Pichon pour dire que nous traversons une très mauvaise passe et qu'on doit tous se resserrer la ceinture, je suis d'accord. Mais il faut arrêter de tout le temps taper sur les travailleurs, je pense.
Anthony, Michel Picon est en ligne avec nous. Le dialogue social, ça marche pas à tous les coups. Vous le citiez en début d'interview. Là, Anthony, il a vu ses négociations aboutir à zéro.
Oui, allô, c'est
Moi
que vous posez la question.
Il n'y a pas de souci, Michel
Picon.
Oui,
bien sûr. C'est regrettable. Je pense que l'accord n'est pas été trouvé. J'espère qu'il va l'être. Cela dit... Il y a dans les entreprises l'augmentation générale des salaires, et puis il y a ensuite après tout un dispositif d'intéressement, de primes qui peuvent compléter la rémunération individuelle. Et je pense que c'est ce à quoi pense votre auditeur. Je pense aussi aux difficultés qu'un certain nombre d'industriels traverse aujourd'hui, exposé à une concurrence internationale extrêmement dure, chinoise en l'occurrence, mais pas que. Et donc tout ça, il y a une transparence dans l'entreprise. Je veux dire, le patron du 19e siècle qui décrète tout seul, c'est terminé, ce sont des clichés. Alors peut-être que électoralement, les organisations syndicales ont besoin de d'exemples comme ça, mais ça se passe pas comme ça, tout
oui,
particulièrement
après,
dans les petites
entreprises. La CFDT, on n'est pas chez les plus radicaux d'ordinaire. C'est peut-être aussi ce qui attire notre attention sur le ton employé par Marie-Lise Léon ce matin.
En tout cas, vous avez le soutien des auditeurs qui composent le 32-16 ce matin. C'est le cas de Gilles notamment. Bonjour Gilles.
À tous.
Gilles, vous vous dites, faut pas montrer du doigt les chefs d'entreprise.
Je voudrais, vous aimez bien les citations, je vais vous rappeler une de Winston Churchill qui disait « Beaucoup voient le patron comme un loup à abattre, mais très peu comme le cheval qui tire la charrette. Mm. » Un compte de résultat ou un bilan, c'est deux additions, une soustraction en bas. C'est rouge ou c'est vert. Mm-hmm. D'accord. On a, comme disait monsieur, plus de 70 000 défaillances d'entreprise. C'est quand même pas anodin, c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc il y a la colonne des charges qui a augmenté de façon absolument hallucinante, que ce soit sur l'énergie, sur les matières premières et ainsi de suite. Hein, et ça, il faut en parler. Et les contributions et les cotisations... De fait, puisque comme le chômage augmente, il y a moins de cotisants. Donc voilà.
Oui, oui, bien sûr, Gilles. Mais alors, pardonnez-moi, on est tous d'accord sur l'augmentation des charges, Gilles. Sauf que la question que pose Marie-Lise Léon ce matin, c'est que ces charges, elles ont augmenté aussi pour les salariés, pour ceux qui font le plein pour aller au boulot, par exemple.
C'est ce que je suis en train de vous dire, pour les salariés, pour tout le monde. Donc dans cet état-là, comment voulez-vous qu'on s'en sorte ? Par contre, il y a des choses à relever quand même. Le petit sous-traitant qui travaille pour une grosse cavalerie, s'il n'est pas content de ce sort en pouvant pas répercuter les augmentations, on va lui expliquer gentiment, monsieur, passez votre chemin, il y en a 10 derrière. Autre phénomène, le petit entrepreneur, parce que ça, il y a un truc in fine là-dedans qui est mal sale, c'est qu'en gros, on montre un peu du doigt les patrons, dire c'est eux les vilains qui sont responsables de vos problèmes. Mais non, c'est les responsables en haut qui décident de tout ça et qui ne font rien pour arranger les choses. Donc j'en reviens à ce que je voulais vous dire. Le petit entrepreneur, quand il veut discuter ses contributions et ses charges, et ses cotisations, pardon, il va au guichet du coin. Seulement le gros, le très très gros, la multinationale, lui, il va directement au ministère avec le non-dit suivant, foutez-moi la paix, sinon je vous en mets 10 000 au chômage. Donc vous pensez bien que les élus qui sont reluire sur notre dos en disant ça va aller mieux pour vous, votez pour nous, ils vont sûrement pas prendre ce risque. À un moment, faut te poser les burnes sur la table. Pardonnez-moi l'expression, mais j'en ai un peu marre des non-dits et de ces choses. J'ai été entrepreneur. Mmh. Chanson. C'est simple. Deux additions, une soustraction en bas. C'est rouge ou c'est vert? C'est rouge, on ferme la boutique, ça fait tant de chômeurs. C'est vert, eh ben, ça va bien.
Merci,
et on
Gilles.
Peut augmenter.
Merci Gilles et Anthony qui sont intervenus au 32-16. Et merci à vous aussi, Michel Picon, d'avoir répondu tôt ce matin sur cette, cet appel de la CFDT à augmenter les salaires. La réponse, c'est on peut pas se le permettre dans l'immédiat avec la réalité de la crise au Moyen-Orient. Merci Michel Picon.
Merci à vous.
À bientôt. Il est 6h50 sur RMC et RMC Story. Les grands titres de l'actualité avec Élise.
Jamais je n'ai forcé une femme, c'est par ces mots que Patrick Bruel est sorti du silence hier dans un post Instagram qui répond aux accusations de viol et d'agression sexuelle qui le visent, une trentaine au total, et notamment la dernière en date, celle de l'animatrice Flavie Flamand, qui fait partie des 5 femmes à avoir porté plainte contre lui. La France multiplie les gestes d'apaisement envers l'Algérie et envoie aujourd'hui son ministre de la Justice, Gérald Darmanin, sur place pour tenter notamment d'avancer sur le dossier du journaliste Christophe Glaize, emprisonné depuis près d'un an. Il sera aussi question de la coopération judiciaire entre Paris et Alger. Et puis le bilan des courses au lendemain de la dernière journée de Ligue 1. Lille valide son ticket direct pour la Ligue des Champions. Lyon devra jouer 2 tours de barrage et l'OM sauve les meubles et jouera en Ligue Europa.
Il est 6h51. Et la bande est là. Virginie Fulpin à ma gauche, Arthur Asquin à ma droite, Géraldine Demory. On commence avec Virginie ce matin avec la dernière journée de Ligue 1 et ses envahissements de terrain pour finir la saison à Nantes et à Nice. Spectacle navrant pour terminer des saisons du même acabit, vous dites.
Au concours du plus idiot, il y a match nul. Hein. Si les supporters envahisseurs voulaient se montrer à la hauteur des résultats de leurs clubs respectifs, bravo, c'est réussi. À Nantes, le club était déjà sûr d'être relégué avant même le coup d'envoi du match contre Toulouse. Mais il y avait quand même de l'émotion. C'était le dernier match de la carrière d'entraîneur de Veydali Lodzic. Une haie d'honneur pour celui qui a été un des plus grands joueurs du FC Nantes dans les années 80. Celui qui est arrivé cette année sur le banc en pompier et qui a fait ce qu'il a pu. les ultras de la Brigade Loire, en envahissant le terrain à la 22e minute, en arrêtant le match, ont réussi à le faire pleurer. Si c'est ça, montrer son amour pour un club, je comprends pas très très bien. Vahid Halilhodžić a bien essayé de les arrêter d'ailleurs, mais ni lui, ni les CRS, ni les barrières anti-intrusion n'y sont arrivés. Alors tant pis pour les autres supporters, hein, ceux qui étaient venus en famille voir un match de foot, ils sont repartis sans rien voir et avec une grosse frayeur.
À Nice, le match a pu aller jusqu'au bout.
C'est au coup de sifflet final que des supporters ont envahi le terrain. Là, il faut dire que le GC Nice avait encore quelque chose à jouer, juste le maintien en Ligue 1. Un nul 0-0 contre Metz et les Niçois vont devoir jouer un barrage contre Saint-Etienne, sans doute sans supporters, parce que la commission de discipline de la Ligue va sévir pour Nice et pour Nantes, forcément et heureusement. Donc il ne faudra pas aller pleurer s'il n'y a pas de supporters niçois en barrage, comme il ne faudra pas chouiner si le FC Nantes commence sa saison en Ligue 2 à huis clos, et même pourquoi pas avec des points en moins. Tous les supporters n'ont pas envahi le terrain, mais ils seront tous punis. Ceux qui ont choisi la violence font payer tous les autres. La ministre des Sports, Marina Ferrari, a d'ailleurs réagi en disant que c'était inacceptable dans le sport et même dans la République.
Alors, ça ne date pas d'hier, hein, les reproches que les ultras font à ces deux clubs.
En novembre, les ultras niçois avaient agressé des joueurs et des membres du staff après une défaite. Toute la saison, ça a été tendu. Est-ce qu'ils pensent avoir aidé leur club? Quand on voit les résultats, j'ai pas trop l'impression. À Nantes, la Brigade Loire pratique la grève des encouragements depuis un moment déjà, alors que les supporters et des reproches à faire à la direction, très bien, qu'ils arrêtent d'encourager l'équipe, pourquoi pas, mais que ça se transforme en violence comme hier ou comme en novembre, bah non. À Nantes, la Brigade Loire avait aussi fait parler d'elle il y a un mois au Parc des Princes avec une banderole qui mettait en cause l'influence du Qatar sur la Ligue 1. Bah, hier soir, ils ont eu besoin de l'influence de personne pour faire n'importe quoi.
Et ça vous fait réagir, vous continuez à nous écrire ces débordements, pour le dire avec un euphémisme,
voilà.
En fin de championnat de Ligue 1, hier soir. Merci Virginie Fulpin, il est 6h54.
Et on retrouve Arthur Asquin pour C'est déjà demain, ou plutôt c'était déjà hier aussi.
Oui, on les croyait disparus depuis au moins une décennie, et pourtant les écouteurs filaires sont de retour. C'est Fnac Darty hein, qui le confirme. Au premier trimestre, les ventes ont grimpé de 3%, pendant que les AirPods et autres dispositifs Bluetooth ont reculé en fait de 4%. Il y a même Chanel hein, qui s'y est mis avec un collier à écouteurs intégré, 14 800 €.
Ouais. Cher.
Ouais. C'est un peu niche. C'est un peu niche.
Mais alors, comment on explique
pardon,
ce
14 800 euros, je souffle coupé parce que j'étais là. Ah oh, tiens, Chanel. Ah bah non.
Un petit mois de salaire.
Et alors, comment on explique, Arthur, ce retour en
France? Alors, Génération Z qui adore recycler les codes des années 90-2000. Le prix ensuite, évidemment, c'est 10-20 € pour des filaires contre 250 € pour des AirPods. Les écouteurs filaires aussi, bah, pas la peine de les recharger. Difficile à égarer dans le canapé également. Puis, alors, il y a la peur irrationnelle des ondes Bluetooth très répandues sur TikTok. Les scientifiques sont unanimes. C'est n'importe quoi. En revanche, il y a une étude quand même européenne sur les perturbateurs endocriniens. Donc, 98% des écouteurs testés, filaires et non filaires. Et puis, bon, il y a quand même l'inconvénient. Il reste un inconvénient principal de ces écouteurs, bah, ce sont les fils et les nœuds. Il y a des physiciens californiens, ils ont démontré après 3000 essais que l'emmêlement des fils est quasi inévitable.
C'est pas grave,
qu'il y a des physiciens qui travaillent dessus. C'est une forme de théorie des cordes.
C'est la théorie du chaos. L'univers tend vers le chaos.
Je croyais dire un truc malin et puis il était encore plus malin. Merci Arthur Asquin.
Je vous en prie.
Merci Arthur, c'est l'heure de retrouver Apolline qui prend le relais ce matin. Salut Apo.
Salut, bon lundi à tous, bon courage pour ceux qui ont eu la chance, comme moi c'est vrai, de se reposer un peu. Le retour, voilà, ça pique un peu.
On se remet dedans.
On se remet dedans.
Diesel, et
d'être avec vous.
C'est parti.
Avec une question à la une. Patrick Bruel peut-il continuer à se produire? Nouvelle plainte contre le chanteur, déposée cette fois-ci par Flavie Flamand. Elle accuse Patrick Bruel de viol alors qu'elle avait 16 ans. Lui affirme qu'il n'y a eu ni drogue ni viol. Patrick Bruel au théâtre en ce moment et en tournée le mois prochain. Plusieurs associations réclament l'annulation de ses spectacles. Et vous, est-ce qu'il doit renoncer à se produire ou est-ce qu'au contraire vous irez ou vous iriez au moins le voir? Vous nous le dites au 32-16, je vous attends. Et vos messages sur le WhatsApp d'RMC 0612 424 424. À tout de suite.
5-7. Le Morning RMC.